RFI, il est minuit à Paris, 23h en temps universel.
Mathis Limano.
Bienvenue à vous pour un nouveau journal à la une. La Moldavie et la victoire de Maia Sandu à l'élection présidentielle. Les derniers chiffres donnent 51,6% des voix. La présidente pro-européenne après dépouillement de 95% des bulletins. Elle remercie tous ceux qui ont cru à la démocratie. Face à elle, un candidat pro-russe. Il appelle au calme, quels que soient les résultats finaux. À suivre dans votre journal, accueil plus que tendu en Espagne pour le couple royal et le Premier ministre en déplacement dans la région de Valence. Après les inondations meurtrière cette semaine. Et puis aux États-Unis, un sondage fait beaucoup parler. Il donne Kamala Harris en tête dans l'État traditionnellement républicain de l'Iowa. Maia Sandu garde son fauteuil à la présidence de la Moldavie. La présidente pro-européenne a été réélue ce dimanche face au candidat pro-russe Alexandre Stoyanoglo avec plus de 51% des voix. Le vote s'annonçait serré, mais le vote des Moldaves installés à l'étranger a encore fait basculer l'élection. La présidente réélue a remercié ses électeurs. Il y a quelques instants, on écoute Maia Sandu.
Moldavie, vous avez gagné. Aujourd'hui, vous avez donné une leçon de démocratie qui mérite d'être écrite dans les livres d'histoire. Aujourd'hui, vous avez sauvé la Moldavie. Dans notre choix pour parvenir à un avenir digne, personne n'a perdu. La liberté et la vérité ont triomphé. La Moldavie a démontré sa volonté et sa force à travers le vote de chacun d'entre nous. Nous avons prouver qu'unis, nous pouvons vaincre ceux qui voulaient nous mettre à genoux. Merci à chacun d'entre vous d'être allé voter, quel que soit votre choix. Cela montre que vous portez l'amour de notre pays dans votre cœur.
Les propos de Maia Sandu, la présidente moldave réélue ce dimanche au micro de Julien Chavan, et à l'instant ses réactions à l'international. D'abord celle du président français Emmanuel Macron. Il se réjouit du triomphe de la démocratie face à toute interférence, référence aux soupçons d'ingérence russe dans cette élection. Et puis cette réaction de Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Elle salue la victoire de Maia Sandu pour l'avenir européen de son pays. Déplacement très tendu pour le couple royal espagnol. Felipe VI et Letizia étaient ce dimanche dans des zones sinistrées suite aux inondations meurtrières dans la région de Valence qui ont fait au moins 217 morts, bilan encore provisoire. Le roi et la reine se sont rendus dans la ville de Paiporta, ville très endeuillée avec plus de 70 morts, accompagnés du Premier ministre Pedro Sanchez et du président de région Carlos Mazón. Ils ont essuyé des jets de boue, insultes, assassins, a-t-on pu entendre dans la foule, alors qu'il est reproché aux autorités leur manque de réactivité lors des inondations. Devant la colère d'habitants en détresse et les quasi-scènes d'émeute, le Premier ministre et le président de région ont dû être exfiltrés. Le couple royal est lui resté une heure sur place pour tenter de calmer la rage des locaux. Mais la délégation a fini par interrompre sa visite. Écoutez ce qu'en dit l'historien spécialiste de l'Espagne, Benoît Pellistrandi, au micro de Grégoire Mott.
Il faut comprendre que le gouvernement central, et c'est une coalition de gauche avec le Parti Socialiste, et la région de Valence, qui est la quatrième région économique de l'Espagne et qui est une région extrêmement dynamique, est depuis juin 2023 dirigée par le Parti Populaire. Si bien qu'il y a un combat politique entre le Parti Populaire et le Parti Socialiste autour de Valence. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'occasion de cette catastrophe absolument dramatique, le Parti Populaire et le Parti Socialiste ont essayé de profiter de l'occasion pour affaiblir leurs concurrents politiques. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'occasion de cette visite du roi et de la reine, les choses ont dégénéré parce que la présence de Pedro Sanchez et de Carlos Mazón a indigné la population, si bien qu'il y a eu un mouvement de colère à l'égard de ce que représentait l'ensemble de cette visite. On a exfiltré le chef du gouvernement et le chef de la communauté de Valence, et c'est le roi et la reine qui se sont trouvés en première ligne.
Pedro Sanchez reconnaît l'angoisse et la souffrance des sinistrés mais condamne tout type de violence, alors que l'agence météorologique espagnole a de nouveau placé la province de Valence en alerte rouge précipitation. Il pourrait tomber 90 litres d'eau par mètre carré en moins d'une heure dans la soirée. À Cuba, près de 70 000 personnes évacuées dans l'extrême est du pays avant l'arrivée imminente de fortes précipitations. La plus grande île des Antilles, déjà fortement touchée par l'ouragan Oscar il y a deux semaines. Son passage avait provoqué des inondations historiques et fait 8 morts. Près de 12 000 foyers, 20 000 hectares de culture et de nombreuses routes avaient été endommagées. Votre journal se poursuit sur RFI et je vous propose maintenant d'ouvrir une page consacrée aux États-Unis. J-1 avant l'élection présidentielle, qui de la démocrate Kamala Harris ou du républicain Donald Trump dirigera la première puissance mondiale pendant les 4 prochaines années? Impossible de dégager une tendance, tant le scrutin est historiquement serré, mais ces dernières heures, un sondage interpelle aux États-Unis et suscite beaucoup de commentaires. Il concerne un état fief des républicains, celui de l'Iowa. Il y a encore quelques mois, cet état du Midwest américain de plus de 3 millions d'habitants donnait largement Donald Trump vainqueur avec 18 points d'avance sur Joe Biden, alors encore candidat, mais désormais c'est sa successeur Kamala Harris qui fait la course en tête dans l'état avec 3 points d'avance. Alors que penser de ce sondage? Comment l'analyser? Élément de réponse avec Mathieu Gallard, directeur d'études chez Ipsos, joint par Sylvie Noël.
L'Iowa, ça a quand même été dans le passé un swing state, mais c'est vrai que depuis 2016, il semblait quand même plutôt bien arrimé chez les républicains. Après, voilà, les autres sondages tendent à montrer que Donald Trump est en avance dans cet état. Mais c'est vrai que là, c'est un institut qui est particulièrement réputé, qui dans le passé, en 2016, en 2020, a donné des tendances que les autres instituts ne donnaient pas et qui se sont révélés exacts. Donc c'est un indice quand même intéressant qu'il faut suivre, qu'il faut prendre en compte, même si voilà, c'est pas parole d'évangile.
Ce dernier sondage, qu'est-ce qu'il pourrait nous dire de l'évolution de certaines sections d'électeurs ?
Parce que l'institut met en avant, c'est notamment un basculement dans la dernière phase de la campagne des femmes, notamment des femmes âgées et des femmes indépendantes, c'est-à-dire qui ne s'identifient ni au Parti républicain ni au Parti démocrate, vers Kamala Harris. Et ce qui pourrait montrer que, voilà, la radicalité du discours de Donald Trump, même durant la dernière ligne droite de la campagne, elle a eu tendance à susciter du rejet. Donc c'est pas une très bonne nouvelle pour Donald Trump.
Le républicain en meeting dans 3 états clés de la côte Est ce dimanche. Il était en Pennsylvanie et se rend à présent en Caroline du Nord et en Géorgie. Devant ses soutiens, Donald Trump matraque son thème favori, l'immigration, multiplie les allégations de triche et semble préparer les esprits à refuser le résultat en cas de défaite. En Pennsylvanie, il a vivement critiqué le processus électoral américain. Réponse de Kamala Harris, les élections sont libres et équitables dans notre pays. C'était le cas en 2020 et il a perdu. La candidate démocrate qui espère le même scénario cette année est-elle dans le Michigan, état industriel où la victoire est jugée indispensable pour elle. Et partout aux États-Unis, près d'un tiers des électeurs a déjà voté par anticipation. RFI et France 24 passent en édition spéciale dès mardi soir pour vous faire vivre cette élection américaine. Au Royaume-Uni, polémique autour de sommes faramineuses touchées par le roi Charles III et son fils William. Des biens immobiliers, propriétés de la famille royale louées à des services publics ou à des organisations caritatives. Au total, ce sont des dizaines de millions de livres qui tombent dans la poche du roi et de son fils. C'est ce que nous apprend ce dimanche le journal Sunday Times, Thomas Harms.
Rien que l'an dernier, le roi et le prince ont touché près de 50 millions de livres en location de leurs propriétés en Angleterre et au Pays de Galles. Les duchés de Lancaster et de Cornouailles, du roi et de son fils, possèdent au total 5400 biens en location. Et une grande partie des loyers sont payés par des organismes caritatifs et des services publics. Dans le détail, le prince William touche 37 millions de la part du ministère de la Justice pour la location d'une prison dans le sud de l'Angleterre. Le roi loue, lui, un entrepôt à Londres à l'assurance maladie britannique pour garer des ambulances électriques, le coût 11,4 millions de livres. Il faut savoir qu'aucune de ses propriétés royales n'est soumise à des taxes et que le roi paye des impôts sur les revenus sur la base du volontariat. Pour les spécialistes des comptes publics, il serait temps de revenir sur ses privilèges, d'autant qu'outre ses recettes, l'an prochain, la chancellerie britannique va verser 132 millions à répartir entre tous les membres de la famille royale. Thomas Harms, Aberdeen, RFI.
Suite et fin de la 10e journée de Ligue 1 de foot ce dimanche. La rencontre du soir opposait Marseille à Nantes. Victoire de l'OM, 2-0. Plus tôt dans la journée, Le Havre a battu Montpellier, 1-0. C'est sur ce même score que Reims s'est incliné à Toulouse, tandis que la surprise de la journée, c'est la claque prise par Rennes à Auxerre. Les Rennois sèchement défaits, 4-0. RFI, il est minuit 10, ici à Paris, 23h10 en temps universel. Merci à vous d'avoir suivi ce journal.